Chapitre 34. Un vent glacial faisait voler les vêtements de Callan et Richard, debout côte à côte à la lisière d'un épais bosquet d'épicéas. Poussés par le vent, des nuages bas déchiquetés semblaient résolus à fuir la gigantesque perturbation noire qui tourbillonnait au-dessus des voyageurs. Les bourrasques charriaient les premiers flocons de neige. Les oreilles gelées, Richard sautait frileusement d'un pied sur l'autre.
Qu'en penses-tu ?
Demanda Callan. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Richard jeta un coup d'œil derrière lui, dans le bosquet. Owen, tu es sûr de ne pas savoir de quoi il s'agit ?
Certain, seigneur Hall. Je ne suis jamais venu ici puisque le col était infranchissable. Impossible de dire ce qu'est cette statue. À moins que...
À moins que quoi ? S'impatienta Richard. Owen rentra la tête dans les épaules. À l'évidence, être flanqué de Tom et de Kara ne le mettait pas à l'aise.
« Eh bien, il existe une prédiction. Elle vient des anciens qui nous ont donné un empire protégé par ce col. Selon certaines légendes, le jour où ils nous ont nommés Bandakar, ils ont précisé qu'un sauveur viendrait un jour à nous. »
Richard aurait voulu demander à Owen pourquoi une culture comme la sienne, raffinée, familière de la lumière et à l'abri des sauvages, aurait besoin d'un sauveur. Préférant faire simple, il opta pour une question qui ne plongerait pas Owen dans la confusion. « Et ce serait une statue de ce fameux sauveur ?» Owen s'agita nerveusement, puis il haussa les épaules.
« Ce n'est pas seulement un sauveur. La prédiction dit aussi qu'il nous détruira. »
Richard plissa pensivement le front. « Bon sang ! Il n'allait pas encore avoir droit à un long discours incompréhensible sur les absurdes croyances des Bandakar. »
« Je sais, personne ne comprend ce que ça veut dire. Ça peut être très simple, »
intervint Jensen.
« Un sauveur viendra, mais il échouera et provoquera indirectement la destruction des Bandakar. »« C'est possible, »
admit Owen, visiblement déprimé par une telle éventualité.
« J'ai une meilleure idée, »
lâcha Kara d'un ton glacial.
« Ça signifie que ce type viendra. » Qu'il trouvera les Bandakar minables et qu'il décidera d'en débarrasser l'univers.
Owen regarda la mort de Sith comme s'il réfléchissait sérieusement à cette possibilité. Décidément, l'ironie lui passait bien au-dessus de la tête.
« Je ne crois pas que ça soit ça, »
dit-il après une assez longue méditation.
« Seigneur Hall, la prédiction dit d'abord qu'un homme arrivera pour nous détruire. Ensuite, elle affirme qu'il nous sauvera. » « Votre destructeur viendra et il vous apportera le salut. » C'est mot pour mot la phrase qui fut dite à mes ancêtres quand on les installa dans l'Empire au-delà de ce col.
« Votre destructeur viendra et il vous apportera le salut, » répéta Richard. Une phrase étrange, mais au fil du temps elle a pu être altérée par ceux qui la répétaient. Je veux dire qu'elle ne doit plus avoir qu'un lointain rapport avec la prédiction originale. Au lieu de protester comme Richard s'y attendait, Owen abonda en ce sens.
Certains d'entre nous pensent comme vous, seigneur Hall, mais d'autres soutiennent que ces mots sont exacts et qu'ils ont un sens capital. D'autres encore affirment qu'on nous prédit simplement la venue d'un sauveur ou d'un destructeur selon les tendances.
Et toi, qu'en dis-tu ? Demanda Richard. Owen joua nerveusement avec les boutons de son manteau. S'il continuait comme ça, il finirait par les arracher.
« Je crois qu'il y a deux personnes. Nicolas est le destructeur, mais un sauveur viendra, et je suis persuadé que c'est vous, seigneur Hall. »
Une interprétation qui en valait une autre. Hélas, Richard savait que les prophéties ne pouvaient pas, par nature, concerner des piliers de la création. « Ce que vous tenez pour une prédiction, » dit-il, « n'est sans doute qu'un vieux proverbe dont les gens ont mélangé les mots. » Owen tenta timidement de défendre sa position.
« On nous dit que c'est une prédiction. On nous apprend que les anciens nous l'ont léguée et qu'ils voulaient qu'elle soit transmise jusqu'à la fin des temps. »
Richard lâcha un soupir qui se transforma en un gros nuage de buée. « Donc tu penses qu'il y a là-haut une statue de moi laissée par les anciens qui vous ont offert votre empire ?» Des millénaires avant ma naissance, comment aurait-il su à quoi je ressemblerais ?
L'authentique sagesse sait tout ce qu'il adviendra,
débita Owen, répétant sa leçon. Il eut un petit sourire et haussa les épaules.
Sinon, comment la statuette que vous avez trouvée dans le passage aurait-elle pu vous ressembler, Seigneur Rall ? Fort mécontent qu'on lui rappelle l'existence de cette balise, Richard se détourna d'Owen. La statuette avait été faite à sa ressemblance par un pouvoir lié à la frontière et sans doute aussi à un sorcier résident du royaume des morts. Richard sonda le ciel, regarda autour de lui et ne distingua aucun signe de vie. La statue, impossible à identifier de si loin, se dressait sur une butte rocheuse au milieu du col. Pour l'atteindre, il leur faudrait encore des heures et des heures de marche. S'il découvrait une représentation de lui-même là-haut, Richard risquait de ne pas aimer ça du tout. Il lui déplaisait déjà beaucoup que la seconde balise lui soit destinée. Cela faisait peser sur ses épaules une responsabilité qu'il n'avait aucune envie d'assumer. De toute façon, il en aurait été incapable. Comment restituer sa protection à l'Empire Bandakar ? Les frontières que Zed avait érigées jadis dans le Nouveau Monde ressemblaient sans doute beaucoup à celles-là. Mais pour ce faire, il avait utilisé des sortilèges découverts dans la forteresse du sorcier. Ces toiles magiques avaient été créées par de très anciens sorciers dont les pouvoirs dépassaient l'imagination. Et selon le grand-père du sorcier, il n'existait plus de sort de ce type. Richard n'avait pas l'ambition de pouvoir invoquer une telle magie. Créer une frontière, lui, c'était impossible. Et même s'il avait pu le faire, n'était-il pas déjà trop tard? La disparition de la frontière qui protégeait l'Empire avait déjà eu une conséquence. Réunir les piliers de la création et le reste du monde. L'ordre impérial se servait des femmes Bandakar pour créer une race entière de trous dans le monde. Des enfants étaient déjà nés et nul ne savait où on les avait envoyés. L'ordre les endoctrinerait et obtiendrait ainsi une armée de jeunes gens totalement étrangers aux dons. Quand Jagang déciderait d'utiliser les hommes pour la reproduction, le nombre d'enfants augmenterait dramatiquement. Une femme pouvait accoucher une fois par an. En une année, un homme était capable d'engrosser des centaines de femmes. Malgré sa haute opinion du sacrifice de soi, l'ordre impérial n'avait pas encore décidé d'utiliser ses propres femmes comme reproductrices. Violer d'innocentes Bandakar et prétendre ensuite que c'était pour le bien de l'humanité ne gênait pas les chefs de l'ordre, mais forcer leurs compagnes à se prostituer au nom de la cause ne leur disait rien qui vaille. Ils y viendraient sans doute, Richard en était certain, mais il leur faudrait encore un peu de temps. En attendant, toutes les femmes capturées dans le Nouveau Monde pourraient être mises enceintes par des piliers de la création. Le bétail de ce genre ne manquerait pas, hélas. Les anciens sorciers du Nouveau Monde avaient fait leur possible pour que l'insensibilité aux dons ne se propage pas. L'ordre s'assurerait qu'elle se transmette à toute l'humanité future. « Richard ?» souffla Kalan afin que les autres, toujours abrités dans le bosquet, n'entendent pas. « Pourquoi la seconde balise devient-elle peu à peu aussi noire qu'une pierre de nuit ? Est-ce pour te montrer combien de temps il te reste avant de devoir prendre l'antidote ?» Venant à peine de trouver la statuette, Richard n'avait pas réfléchi à cette question. Mais il s'agissait à l'évidence d'un sérieux avertissement. Les pierres de nuit étaient liées au royaume des morts et par conséquent aux gardiens. Kalan pouvait avoir raison au sujet du changement de couleur de la statuette. Pourtant, Richard doutait que ce soit la bonne explication. « Je ne peux rien affirmer, » dit-il. « Mais je ne crois pas que ça ait un lien avec le poison. » Je pense que la statue noircit pour symboliser la façon dont le pouvoir me fait défaut. Le don me tue à petit feu et le royaume des morts m'enveloppe lentement dans un linceul de non-vie. Pour le réconforter, mais aussi pour exprimer son inquiétude, Kalan posa une main sur le bras de son mari. J'en étais arrivé aux mêmes conclusions que toi, mais j'espérais que tu me contredirais. Bref, le don est plus dangereux que le poison. La preuve, c'est que le sorcier mort a utilisé la balise pour te prévenir. Richard se demanda si la statue qui trônait au milieu du col leur fournirait des réponses. Pour sa part, il n'en avait pas. Pour aller voir, il devrait sortir de la forêt et avancer en terrain découvert. Richard fit signe à ses compagnons de le rejoindre. « Je doute que les coureurs nous attendent ici, » déclara-t-il. « À mon sens, nous avons vraiment réussi à les semer. » Donc nous pouvons continuer notre chemin sans que Nicolas sache où nous sommes.
« Avec cette couverture de nuages au ras des pics, » ajouta Tom, « ces fichus oiseaux auront du mal à nous chercher. »«
C'est probable, » modéra Richard, « mais pas certain. » L'heure avançait. Dans les lointaines montagnes, un loup hurla à la mort. Quelques secondes plus tard, un autre lui répondit. « Il faudrait se méfier d'une meute. » Très inquiète, Betty se pressa contre les jambes de Jensen.
« Et si Nicolas utilise d'autres espions ?»
demanda la sœur de Richard. Kara saisit sa natte blonde qui reposait sur son épaule gauche, puis regarda alentour.
« Que veux-tu dire ?»
Luttant contre le vent glacial, Jensen resserra autour d'elle les pans de son manteau.
« Eh bien, il peut voir à travers les yeux d'autres animaux. »«
Un loup, par exemple ? Tu penses que c'est lui que nous venons d'entendre hurler ?»«
Je n'en sais rien. » reconnut Jensen.
« Si un coureur peut lui servir de regard, » dit Richard, « une souris ferait tout aussi bien l'affaire. »
Tom écarta de son front une mèche de cheveux blonds, puis il sonda le ciel.
« Dans ce cas, pourquoi utilise-t-il toujours des coureurs ? »
demanda-t-il.
« En tout cas, c'est ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. »
« Sûrement parce qu'il couvre aisément de grandes distances. Une souris aurait du mal à nous emboîter le pas. Plus encore, « je pense qu'il aime s'unir à de puissants oiseaux de proie. Après tout, il est lui aussi un chasseur. »«
Donc nous devons nous inquiéter exclusivement des coureurs ?»
demanda Jensen.
« Je crois que ce sont ses hôtes préférés. Mais pour lui, la faim peut justifier tous les moyens. Il nous traque, Kalan et moi. Pour nous avoir, il recourra à toutes les armes à sa disposition. Si ça peut l'aider, il se contentera des yeux d'une souris. »«
S'il finit par vous capturer... » dit Kara. Owen l'aura bien aidé en vous conduisant à lui. »
Richard ne trouva rien à redire à cette analyse, mais pour le moment, il devait jouer selon les règles édictées par Owen. Très bientôt, les choses changeraient.
« Pour l'instant, » dit le sourcier, « Nicolas en est toujours à nous chercher, et il doit se reposer sur les coureurs. Comme j'ai tué plusieurs de ces oiseaux, il doit se douter que nous avons compris son petit jeu d'espionnage. » Quand nous serons plus près de lui, il utilisera sûrement d'autres hôtes pour nous tromper.
Un loup, un hibou, n'importe quel animal ?
Demanda Kalan, visiblement alarmé par cette possibilité.
Une chouette, un pigeon, un moineau. Si je devais parier, je dirais qu'il se servira d'un oiseau tant qu'il ne nous aura pas trouvés.
Kalan se serra contre son mari, en partie pour se protéger du vent. Ils étaient à présent assez haut dans la montagne pour qu'il neige de temps en temps. D'après ce que Richard savait de l'ancien monde, le climat était trop chaud pour qu'il neige au niveau de la mer. En altitude, ça restait possible, même en cette période de l'année, mais il fallait s'aventurer sur les pics les plus imposants. Richard désigna les flocons qui tourbillonnaient dans l'air.
« Owen, comment sont les hivers dans l'Empire ? Très froid, avec de la neige ? » ?»«
Le vent souffle du nord, donc à partir du versant de la montagne où nous sommes. Les hivers sont rigoureux, mais la neige reste exceptionnelle. » Le problème, c'est plutôt la pluie. En revanche, je ne comprends pas pourquoi il neige ici, en plein été.
L'altitude, répondit simplement Richard.
Un peu plus haut, on voyait des neiges éternelles, et avec ce vent, les traversées seraient dangereuses. Bien entendu, il y avait aussi les risques d'avalanche. Par bonheur, le col n'était plus très loin, et il n'aurait pas besoin de s'aventurer plus loin où s'étendaient des glaciers. Mais avoir si froid après la chaleur du désert était une torture.
« Je veux voir cette statue de plus près, » dit Richard. « Tout le monde est d'accord ?»
Personne n'émit d'objection.
« Nous devons savoir ce qu'elle fait là. »«
Vous pensez qu'il faut attendre la nuit, Seigneur ?»
demanda Kara.
« L'obscurité pourrait nous dissimuler. »
« Les coureurs y voient sûrement très bien dans le noir, puisque ce sont des chasseurs nocturnes. Non, je préfère tenter l'aventure de jour, pour avoir une chance de les voir arriver. »
Le sourcier prit son arc, posa un pied sur une extrémité, plia l'autre et attacha la corde. L'arme bandée, il tira une flèche de son carquois et l'encocha. Puis, il leva les yeux et tenta de repérer des coureurs. Il n'y en avait pas dans le ciel. Pour la cime des arbres, il était difficile d'être sûr, mais il fallait bien prendre quelques risques dans la vie.
« Mettons-nous en route, » dit Richard. « Autant que possible, marchez sur les rochers.
Je ne veux pas laisser dans la neige une piste que les coureurs de Nicolas n'auront aucun mal à repérer. »
Les compagnons du sourcier hochèrent tous la tête, puis ils lui emboîtèrent le pas. Marchant devant Kara, sur ses gardes comme d'habitude, Owen jetait de fréquents coups d'œil au ciel. Jensen et Betty surveillaient la forêt sur les côtés. Les bourrasques se firent de plus en plus fortes. Pour se protéger un peu, les voyageurs se plièrent en deux. En altitude, avec un oxygène raréfié, toute ascension devenait vite pénible. Les mollets de Richard lui faisaient un mal de chien, et le poison transformait en torture chaque inspiration. En étudiant le terrain, l'ancien guide forestier estima que le col était le seul chemin possible pour traverser ces fichues montagnes. Essayer une autre route aurait probablement été mortelle, même pour des alpinistes expérimentés. Personne ne parla tout au long de la montée. Quand ils marquèrent une pause pour reprendre leur souffle, les voyageurs ne pouvaient s'empêcher de sonder le ciel tourmenté. Richard repéra quelques petits oiseaux dans le lointain, rien d'inquiétant à première vue. Alors qu'ils approchaient du but, souvent en zigzagant pour éviter d'escalader des rochers, Richard put apercevoir un peu mieux la statue assise sur son énorme socle en granit. Au milieu du col, le gouffre, des deux côtés du versant, devait être profond de plusieurs milliers de pieds. Si des routes partaient de plus bas, elles devaient toutes converger vers la zone où Richard et ses compagnons avançaient. Comme ça semblait probable dès le début, il n'y avait pas d'autre chemin pour atteindre le passage. Tout voyageur approchant de Bandakar finissait par se trouver devant l'étrange monument. La statue montait la garde au milieu du col. Quand il la vit enfin en entier, Richard constata que ce n'était pas seulement une image poétique. Dans une main, l'homme tenait une épée dont la pointe reposait sur le sol. Ce guerrier portait une cuirasse et une cape était posée sur ses genoux. Sa posture n'avait rien de détendu. Il était là pour surveiller le versant et il connaissait l'importance de sa mission. Des siècles d'intempéries s'étaient attaqués à la pierre sans rien retirer à la puissance de la sculpture. Qu'une telle œuvre d'art soit installée au milieu de nulle part où quasiment personne n'avait une chance de la voir ne manqua pas d'étonner Richard. Pour avoir manié le burin, il savait ce que représentait ce travail. Ce n'était pas l'œuvre d'un grand artiste, mais d'un technicien remarquablement doué. Bref, cette sculpture donnait facilement la chair de poule.
« Au moins, » dit Callan, « il ne te ressemble pas. »
« Oui, c'était déjà ça de prix.
Mais que cette statue soit restée là pendant des milliers d'années, abandonnée de tous, avait quelque chose d'angoissant.
« Je voudrais bien savoir pourquoi la seconde balise n'est pas ici. »
Que fichait-elle sous terre ?
Si Jensen n'avait pas paniqué, rappela Callan,
tu n'aurais jamais trouvé la statuette ? Richard fit le tour du socle, cherchant il ne savait trop quoi. Soudain, il aperçut en haut d'une moulure décorative un étrange vide dans la neige, comme s'il y avait eu là un objet qu'on avait retiré pour une raison inconnue. La forme de ce vide lui paraissant familière, il sortit la balise de son sac et étudia son socle.
Oui, ça collait.
Son intuition confirmée, le sourcier posa la statuette à l'endroit qui aurait dû être sa place. La balise était censée attendre là, avec la statue géante.
« Comment a-t-elle fini sous terre ? »
demanda Kara d'un ton soupçonneux.
« Elle est peut-être tombée ? »
suggéra Jensen. « Avec ce vent, ce ne serait pas étonnant. »
Elle aurait roulé à travers la forêt sans être arrêtée par un arbre ou un rocher, dit Richard, puis se serait obligeamment arrêtée sous la roche à l'endroit où tu t'es coincé par le plus grand des hasards,
ou plutôt à cause d'une angoisse que tu n'éprouves normalement pas dans les endroits clos.
Bien sûr, si tu présentes les choses comme ça,
reconnut Jensen. Debout devant la statue, à l'endroit où aurait dû être la balise et où elle était revenue, Richard avait une vue stratégique parfaite sur le paysage à l'ouest qui donnait accès à l'Empire Bandakar. Des deux côtés, les montagnes qui bloquaient la lumière étaient les plus impressionnantes qu'il ait jamais vues. Malgré leur longue ascension, le sourcier et ses compagnons étaient seulement au pied de ces pics-là. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre d'une sentinelle, la statue ne regardait pas devant elle, mais légèrement sur la droite. Richard trouva ce détail un peu étonnant. Était-ce pour montrer que ce gardien était particulièrement vigilant ?
De sa position, juste devant la balise, Richard pouvait aisément suivre la direction du regard de la statue. Dans le lointain, à l'ouest, il distingua une grande forêt et, au-delà, les premières montagnes, plutôt de hautes collines, qu'ils avaient traversées. Il y avait un vide entre deux pics, et les yeux de Pierre, au-delà de cette faille, étaient fixés sur quelque chose que Richard reconnaissait à présent.
« Par les esprits du bien !»«
Que se passe-t-il, Richard ?»
demanda Callan.
« Que vois-tu donc ?»«
Les piliers de la création !»